Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Elle aurait sauvé des milliers de vies, celles de femmes en train d'accoucher, mais aussi de nouveau-nés. Au XVIIIe siècle, cette sage-femme, la première du genre, s'est donnée pour mission de former des accoucheuses professionnelles aux quatre coins du royaume de France grâce à son invention. Je vous raconte maintenant la savante enseignante Angélique du Coudray. Nous sommes en avril 1777 à Évreux. Angélique du Coudray est entourée d'une centaine de femmes, jeunes et moins jeunes. Il y a aussi des hommes, chirurgiens et médecins, venus assister à ces leçons qui commencent par quelques connaissances générales sur l'anatomie du bassin féminin et sur les étapes d'un accouchement normal. Angélique du Coudray insiste ensuite sur les accouchements difficiles, apprenant à ses élèves à être prudents, à exercer les bonnes manœuvres pour épargner des souffrances inutiles aux mères. En attendant le moment de délivrer la femme, on doit la consoler le plus affectueusement possible. Il faut le faire avec un air de gaieté qui ne lui inspire aucune crainte de danger, leur dit-elle, avant de se lancer dans une démonstration sur un mannequin de taille réelle, reproduisant fidèlement l'anatomie féminine. L'assistance suit attentivement les gestes de la sage-femme. On raconte qu'il y a tellement de monde venu suivre ses cours que les manipulations deviennent compliquées. En 25 ans de carrière, Angélique du Coudray formera plus de 5000 sages-femmes et plusieurs centaines de médecins et chirurgiens dans une cinquantaine de villes de France. L'histoire a retenu très peu de choses sur la vie personnelle d'Angélique Marguerite du Coudray. Mais on sait que, née à Clermont-Ferrand au début des années 1710, elle s'installe à Paris pour effectuer une carrière de sage-femme dans une ville où une accoucheuse experte peut facilement réussir auprès d'une clientèle fortunée. Elle est d'abord apprentie chez Anne Bersin, une sage-femme réputée, avant d'exercer ce métier dans le quartier du Marais. À la quarantaine, elle se laisse pourtant persuader de s'installer à Thiers en Auvergne par le seigneur local comme sage-femme seigneuriale. Là, elle découvre la misère et la souffrance de ces femmes qui accouchent dans des conditions parfois épouvantables. Les futures mères s'adressent à des matrones, des voisines ou proches, sans formation ni connaissance médicale. Elles ont appris le métier en regardant faire une matrone plus âgée et ont parfois encore recours à des incantations, des amulettes et des potions. Bien trop d'accouchés de nouveau-nés meurent de leurs mains inexpérimentées. Angélique du Coudray est intimement convaincue qu'en donnant aux matrones des connaissances gynécologiques solides, la mortalité liée à l'accouchement peut être fortement réduite. Très pédagogue, elle reprend et perfectionne le principe du mannequin de démonstration, permettant l'apprentissage pratique des gestes obstétricaux qu'elle perfectionnera d'année en année. Certains sont réalisés avec un véritable bassin en os. L'un de ces mannequins, aussi appelé machine ou fantôme, représente la partie inférieure du corps d'une femme en taille réelle et possède 8 pièces supplémentaires, comme un fœtus de 7 mois, des poupées de jumeaux en tissu rembourré de coton, ainsi qu'un appareil génital féminin complet et fidèle au dessin d'anatomie de l'époque. Cette pièce porte 21 petites étiquettes manuscrites cousues qui permettent aux élèves d'identifier les différents organes de la reproduction, notamment les ovaires, les trompes de Fallope et bien sûr l'utérus qu'on appelle alors matrice. Il reste aujourd'hui un unique exemplaire du mannequin d'Angélique de Coudray au musée Flaubert et d'histoire de la médecine à Rouen. En 1756, il est approuvé par l'Académie de chirurgie. Cette validation est importante car la science de l'accouchement est alors sous le contrôle des chirurgiens, tous des hommes bien sûr. 3 ans plus tard, le roi Louis XV lui-même délivre à Madame du Coudray une pension de 8000 livres par an avec pour mission de prodiguer des cours dans la France entière. À 45 ans, Angélique du Coudray part alors professer son art dans presque toutes les provinces du royaume. Son enseignement dure 6 à 8 semaines. Il comporte des cours théoriques appuyés sur le manuel qu'elle a publié en 1759, mais surtout des démonstrations, puisque la plupart des élèves savent à peine lire et écrire et n'ont aucune notion de médecine. Elles viennent bien souvent de milieux modestes. Certaines sont obligées de travailler à côté des cours et apportent leurs ouvrages de broderie ou de couture. Pour donner un écho aux cours de Madame de Coudray, de nombreux moyens sont utilisés. Circulaires aux curés, affiches, gazettes provinciales, et ça fonctionne. À Évreux, en 1777, tant de monde se présente qu'Angélique de Coudray s'en effraie. À Angers, ils sont 140, c'est un record. En revanche, à Issoudun, seulement 14 élèves se présentent. Oui, les cours dispensés par Madame du Coudray ne sont pas toujours un succès. C'est qu'il est souvent mal vu d'aller à l'encontre des traditions. Dans les campagnes, les matrones jouissent encore d'une bonne réputation. Elles viennent au secours des accouchés gratuitement. Vouloir les remplacer par des sages-femmes instruites qui se font rémunérer n'est pas simple à obtenir. Et puis, il y a quelques chirurgiens un peu jaloux, méprisants, qui voient d'un mauvais œil qu'une femme puisse les instruire ou leur disputer le rôle de professeur. Heureusement, Angélique du Coudray a quelques appuis haut placés qui lui permettent de mener à bien son enseignement. Le contrôleur général Bertin organise ses déplacements. Jacques Necker, le ministre des Finances de Louis XVI et l'évêque de Dax, ne cessent de l'assurer de leur soutien. C'est aussi le cas du célèbre marquis de Lafayette qu'elle aurait sauvé à la naissance, comme nombre d'enfants. On la décrit comme un prodige et une femme au talent sublime, mais aussi, selon Turgot, ministre de Louis XVI, comme une personne assez ridicule par la haute estime qu'elle a d'elle-même. Le portrait qu'elle fait figurer dans son abrégé de l'art des accouchements la représente sous les traits d'une bourgeoise sûre d'elle, au regard impérieux. Certains lui reprochent son assurance, mais également son goût pour les cadeaux. Madame du Coudray aurait ainsi sollicité certains de ses élèves pour lui offrir une montre en or. Lorsqu'elle voyage, elle réclame de beaux logements et tire aussi profit du commerce de ses manuels et de ses mannequins qu'elle vend généralement entre 200 et 300 livres pièce. Malgré ses menus avantages, près de 25 ans de voyages ininterrompus s'avèrent éreintants à l'âge venu. Les conditions de transport sont parfois pénibles et pèsent sur la santé fragile d'Angélique du Coudray. À plus de 60 ans, elle souffre de terribles crises de goutte et son embonpoint n'arrange sans doute pas la situation. Fort heureusement, sa nièce, Marguerite Coutenceau, et son époux, la seconde dans sa mission. Progressivement, le couple se substitue à Angélique du Coudray et assume les démonstrations publiques. Après la disparition d'Angélique du Coudray en 1794, il crée un hospice de la maternité à Bordeaux. D'autres établissements associant maternité et école de sage-femme ouvriront rapidement un peu partout en France. Quant aux mannequins de démonstration, inspirés de celui d'Angélique du Coudray, ils sont encore utilisés de nos jours. Une femme savante donc, et sacrément en avance sur son temps.
Europe 1, historiquement vôtre.